France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Au fil du temps, qu'a voulu dire être humain ? On dit souvent que définir, c'est distinguer, et que distinguer, c'est départager. Mais alors, s'agissant de définir en quoi consiste le fait d'être humain, comment ce départage s'est-il effectué ? On sait qu'il ne se fonda pas sur les mêmes principes chez les Grecs, les Romains, les chrétiens, les modernes et les postmodernes. Mais comment s'est-il précisément reconfiguré au cours de l'histoire, parfois de façon révolutionnaire ? Et aujourd'hui, que veut dire être humain et que veut dire être inhumain ? Pour répondre à ces questions délicates et vertigineuses, j'ai le plaisir de recevoir François Hartog. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur d'études émérites à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous avez écrit récemment un livre qui s'intitule « Départager l'humanité » avec comme sous-titre « Humain, humanisme, inhumain ». Le tout au pluriel. Ce livre est paru chez Gallimard. Personnellement, je vous connaissais, François Hartog, pour vos travaux sur le présentisme, notion que vous avez développée dans vos livres précédents et qui illustre à vos yeux la forme contemporaine de notre rapport au temps. Comment est-ce qu'on peut définir plus précisément le présentisme selon vous ?
Alors, le présentisme, c'est une proposition que j'avais faite au début des années 2000 et à ce moment-là, c'était plutôt une hypothèse. C'était de dire, alors je n'étais pas le seul à faire cette observation, notre rapport au temps dans nos sociétés a changé et est en train de changer. Et il me semblait que ce qui avait prévalu jusqu'alors était la dimension du futur, vers lequel on était invité à marcher le plus vite possible, et encore plus après la guerre, après 1945, quand la reconstruction, la modernisation, et puis l'entrée dans la société de consommation, et puis la guerre froide, la lutte entre l'Est et l'Ouest pour être à qui serait le plus moderne. Donc tout ça nous menait, avec une rapidité croissante, vers un futur du côté de l'Est qui devait être radieux, du côté de l'Ouest, un futur qui devait apporter plutôt l'abondance et le bien-être. Mais autour des années 1970, des failles commencent à se faire sentir et commencent à entrer dans l'espace public, dans ce qui se dit que finalement le progrès peut-être est trop rapide. Peut-être on voit en France disparaître le monde paysan très rapidement. On voit aussi cette idée qui commence à se diffuser selon laquelle finalement peut-être que les jeunes générations ne vivront pas mieux que leurs parents. Alors que c'était précisément l'inverse précédemment. Donc il y a tout un tas de signes.
Donc c'est l'idée de progrès qui entre en crise.
C'est l'idée de progrès qui entre en crise. Et à partir de ce moment-là, évidemment qu'on ne pouvait pas dire on va remettre le passé au premier rang, comme étant cette grande, alors qu'il l'a été pendant des siècles et des siècles, c'est-à-dire non pas qu'on voulait revenir au passé, mais on allait d'abord regarder du côté du passé quand on voulait agir. Puisque la question pour toutes les sociétés, pour tout un chacun, c'est que faire ? Comment faire ? Donc on allait chercher des exemples, des leçons du côté du passé pour agir dans son présent. Après, ce que je viens de décrire, ce que j'appelle moi le régime moderne d'historicité, c'était le futur, qui était cette lumière vers laquelle il fallait se diriger et qui éclairait toutes nos actions futures, présente et passée aussi, puisque ça donnait une intelligibilité sur le chemin que les sociétés avaient parcouru. Bon, c'est cette configuration-là, cette dernière configuration-là qui entre en crise, et ne reste d'une certaine manière que le présent disponible. Un présent qui va être investi au point que on va le, enfin, le mettre au pinacle. On dira, par exemple, qu'il ne faut pas, il ne se suffit pas de vivre avec son temps, qui était la formule la plus habituelle, mais qu'il faut vivre au présent. Now. Le now qui a été, comme ça, vanté. Bon. Et ce présent, qui pendant quelques décennies a été extrêmement valorisé, font fabriquer à chaque minute le passé, le futur dont il avait besoin. Bon, ça a été le temps médiatique et le représentant principal de ça. Et puis, est arrivée la révolution de l'information. Et là, c'est plus la minute, c'est la seconde ou même la nanoseconde. Et ce sont les informations en continu. Bon, donc il n'y a plus que du présent. Et comment une société peut-elle vivre si elle prend son présent comme son propre son regard sur elle-même constamment? Et il me semble que le présentisme, alors on pourrait s'interroger sur pourquoi cette situation s'est créée, mais c'est probablement ça nous entraînerait un peu loin. En tout cas, le présentisme a éclos, s'est développé, a été vanté, a été poussé évidemment par les transformations technologiques. Toute la révolution de l'information, et puis maintenant les réseaux sociaux, et puis les grandes plateformes. Mais ce présentisme, il est lui-même mis en question aujourd'hui, en particulier par ce qui est survenu au début des années 2000, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'anthropocène, c'est-à-dire cette rencontre avec les temporalités extrêmement longues de la Terre, du système de la Terre, qui se compte non pas en siècles, non évidemment pas en années, en siècles, mais en millénaires ou en millions d'années. Et tout d'un coup, donc ce présent qui était dans sa bulle, une sorte de nombriliste,
Il éclate
et se trouve confronté à des durées immenses, irreprésentables, mais qui oblige à prendre conscience que, alors c'est ça la première définition de l'anthropocène, que l'espèce humaine, comme espèce, en tant qu'espèce, est devenue une force géologique.
C'est comme si le présentisme contredisait son anagramme, je ne sais pas si vous la connaissez.
Non.
Le présentisme a pour anagramme le temps serein.
Voilà.
Ça ne ressemble pas à ce que vous dites.
Non.
Anagramme qui a été trouvé par Olivier Garcia, que je remercie. Alors, on va parler de votre livre, le dernier, Départager l'humanité, où là, au contraire, vous creusez très loin dans le passé pour essayer de définir comment l'humain a été défini par les différentes civilisations. Et vous mettez en exergue de cet ouvrage une phrase de Maurice Merleau-Ponty: l'homme est une idée historique et non pas une espèce naturelle. Et ça apparaît tout à fait clairement quand on lit votre livre. Je vous propose qu'on commence par aller se faire voir du côté des Grecs. Vous expliquez que pour les Grecs, être humain, c'est d'abord ne pas être immortel, au contraire des dieux. Et donc le premier départage, comme vous l'indiquez, se fait entre la vie et la mort.
Oui, il me semble. Alors vous me direz, c'est pas, il n'y a pas que les Grecs. Bon, mais là, j'ai pris ce monde grec qui a aussi joué un rôle important dans l'histoire de la culture européenne. Mais la logique, me semble-t-il, de la démarche de grec telle qu'on peut la reconstituer, c'est le scandale de la mortalité. Bon, être mortel. Et pour faire face à ce scandale, pour essayer de se négocier autant qu'on puisse le faire avec ce scandale, on a posé en face des êtres immortels. Bon. Et en grec, mortel se dit thanatoi, thanatos la mort, thanatoi, des gens qui meurent, et les immortels sont athanatoi avec un alpha privatif, c'est-à-dire qu'on les définit comme étant d'une certaine manière privés de la mort. C'est quelque chose qui leur manque. Bon, mais ce manque est bien évidemment ce qui fait leur supériorité. Donc on a posé des êtres immortels, et c'est par rapport dans ces êtres immortels qu'on va élaborer toute une anthropologie dans laquelle l'humain va trouver sa place, va trouver une définition. Et un des grands constructeur, élaborateur de cette anthropologie, de cette première anthropologie, c'est le poète grec Hésiode, au 5e siècle avant notre ère.
Qui va décrire le Panthéon grec.
Oui.
Alors, qui est très compliqué.
Très.
Parce que les dieux grecs sont immortels, mais ils ne sont pas éternels, ils n'ont pas toujours été là, ils sont nés, ils ont des relations sexuelles, parfois avec des mortels, ils font des enfants. Mmh. Est-ce qu'on peut définir l'organigramme de ce Panthéon?
Oui, bah, justement, des gens comme Hésiode s'y sont employés. C'est-à-dire qu'ils ont construit une espèce de carte, de cartographie des généalogies divines. Bon, c'est très intéressant, puisque, alors en effet, c'est très compliqué, il y a toutes sortes de liaisons, d'unions plus ou moins licites, enfin il y a tout un tas de choses, très bien. Mais le point intéressant, c'est, comme vous venez de le dire, c'est que ces êtres immortels, ils ont une naissance. Bon, c'est les généalogies divines. Ils ont une naissance, et puis ils enfantent, ils engendrent, etc. Et ils ne meurent pas. À partir du jour où ils sont nés, ils durent toujours. Mais ils ne sont pas éternels, justement. Puisqu'ils ont eu un commencement. Ils n'auront pas de fin, ou du moins pas de fin imprévisible, mais ils ont eu un commencement. Ce qui alors, plutôt que de les appeler éternels, je pense qu'il faut les appeler... Alors, on dirait que c'est du raffinement peut-être un peu inutile, mais pas tant que ça. On peut les appeler sempiternels, du grec, du latin semper, qui veut dire toujours.
Ils durent toujours.
Et pourquoi je dis ça? Alors, on va sans doute y venir dans quelques instants. Pour les distinguer justement d'un dieu qui, lui, se donne comme éternel, qui n'a ni commencement ni fin.
Ça viendra plus tard. Ce dieu-là viendra plus tard, François.
Il viendra plus tard, oui.
Mais quel est le statut de la déesse dans ce panthéon par rapport au dieu?
Elle est indispensable. Bon, puisque tout est affaire de généalogie, et donc on fait des enfants de cette manière-là, enfin, sauf Zeus qui arrive à en faire tout seul, et Hera qui arrive aussi à en faire toute seule une fois, mais elle est à la fois présente et en position soumise, et elle est aussi, évidemment, du coup, dotée de toutes les ruses qui sont attribuées communément à la gente féminine.
Mais la déesse n'est pas libre de ses choix amoureux?
Non. La déesse n'est pas libre. Alors ça, vous faites allusion à Homère et à ce qui se passe avec Ulysse et Calypso, la nymphe Calypso. Calypso qui vit... Alors Calypso, elle a un statut divin, mais elle vit à l'écart. Elle n'est pas à l'Olympe, elle vit toute seule sur son île. Et Calypso, elle est tombée amoureuse d'Ulysse. qu'elle a recueilli chez lui, et elle aimerait bien le garder.
Elle lui propose l'immortalité. Qu'il refuse.
Alors, qu'il refuse pour deux raisons. Il refuse parce qu'il sait bien que, de toute manière, Zeus, le maître des dieux, le père des dieux et des hommes, Zeus ne le permettra pas. C'est une transgression de la barrière qui s'est créée, justement, entre humain et divin. Donc Zeus ne le permettra pas. Et en plus, du point de vue d'Ulysse lui-même, ce serait, au fond, disparaître, d'une certaine façon. Puisqu'il resterait dans l'île de Calypso. Bon, il ne connaîtrait ni la vieillesse ni la mort, mais il serait oublié de tout le monde. Or, pour un homme, un être humain, un guerrier grec de tel homérique, l'important, l'essentiel, c'est d'obtenir la gloire.
De rester vivant dans la mémoire des...
Et de rester vivant.
Des hommes.
Puisqu'ils savent bien qu'ils vont mourir. Ils savent bien que l'immortalité n'est pas pour eux, et que le seul moyen de demeurer vivant, mais une fois mort, c'est dans la mémoire des vivants, à travers la gloire qu'ils ont conquise au combat.
Alors en vous lisant, on découvre aussi la thèse d'Aristote, enfin on la redécouvre, Aristote qui disait que l'humain se définit comme un animal politique, et se distingue donc des animaux par le fait qu'il dispose d'un logos, qui lui permettent de discuter avec les autres, d'exprimer ses pensées, de sorte que l'humain est en quelque sorte entre l'animal et Dieu, et les dieux.
Oui, donc il est un animal, Il est un zoon, il est un animal, un vivant, comme les bêtes. Bon, en ce sens, il est mais aussi les astres sont des vivants. Bon, l'humain est un vivant, mais il est mortel. Et à la différence des animaux, il a ce logos, c'est-à-dire cette capacité de parler, de raisonner, d'avoir de l'interlocution. Et c'est dans l'interlocution que se construit cette définition de l'homme comme zoon politikon, c'est-à-dire susceptible d'avoir des relations de parité avec un alter ego.
C'est-à-dire que la vie de la cité suppose le logos.
Oui.
Le débat.
Oui.
Et depuis quand, François Hartog, parle-t-on d'une immortalité de l'âme ? Vous dites que c'est une idée non pas grecque à l'origine, mais plutôt égyptienne.
Oui. Alors c'est ce que dit Hérodote, qui dit que c'est venu d'Égypte. Bon, c'est venu alors de l'Orient. Bon, on trouve ça dans Mésopotamie, chez les Perses, on trouve dans le zoroastrisme. Enfin, il y a tout un tas d'endroits où quelque chose qui ressemble à l'âme apparaît. Mais ce qui en somme l'a fait entrer dans ce qui va devenir le monde occidental ultérieurement, c'est Platon. C'est Platon qui fait intervenir l'âme, ce qui bouleverse tout, encore une fois, qui bouleverse justement cette première anthropologie. Puisque dans cette première anthropologie, l'homme est mortel et quand il meurt, c'est fini. Il va chez Hadès et c'est pas spécialement drôle d'aller chez Hadès. Bon. Avec l'âme, on commence à dire, mais peut-être bien que cette âme, elle est immortelle. Où elle peut gagner une forme d'immortalité. Et du même coup s'instaure une séparation entre le corps et l'âme. Le corps qu'il faut abandonner pour remonter, se diriger, faire cette ascension vers le monde des idées, vers le monde de l'intelligible. Et cette grande... césure, au fond, introduite par Platon, va prospérer ultérieurement, va évidemment être au centre du christianisme et au-delà de toutes les philosophies idéalistes jusqu'à aujourd'hui.
François Hartog, avant d'arriver au christianisme, il faut passer quand même faire un détour par les Romains.
Certes.
Vous expliquez que pour les Romains, c'est pas la question de la mortalité ou de l'immortalité qui les intéresse le plus, mais plutôt la question de l'humanité de l'homme. Tous les hommes naissent hommes par définition, mais ils ne deviennent pas tous humains.
Oui.
Vous introduisez la notion d'homo humanus.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un humain quand on est un homme ?
Alors, là, c'est pas facile.
Oui, c'est ce que j'ai compris.
C'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, en effet, bon, ça veut pas dire que les Romains pensaient qu'ils n'étaient pas mortels, que ça les intéressait pas, mais c'est pas ça qu'ils mettent en avant.
C'est pas ça qu'ils font de départage.
Non. Parce que, alors, les Romains, il y a cette tradition qui court depuis le début de Rome, selon laquelle les Romains, au départ, enfin Romulus, Rémus, étaient en fait des brigands. C'est-à-dire, les Romains viennent de la sauvagerie. Et ils ont dû, justement, se cultiver.
Au sens... Vous voulez dire que les premiers hommes étaient des bêtes sauvages ?
Oui.
Comme le raconte Lucrèce.
Oui. Et les Romains n'échappaient pas à ça. Ils se prétendent pas qu'ils étaient tous d'emblée parfaitement tous parlaient tous du latin de Cicéron. Non. Et donc cette interrogation ou cette définition, être humain, enfin, être un homme pleinement, c'est être un homo humanus et c'est une conquête. C'est une conquête qui se marque alors par toute une culture. Et ça indique aussi autre chose en ce qui concerne les Romains, c'est que les Romains ont tenu les Grecs pour leurs éducateurs. Bon. Donc autrement dit, l'élite romaine, comme vous le savez, à l'époque de la République, mais ensuite au-delà, mais dès l'époque de la République, l'élite romaine parlait le grec, était bilingue. Bon. Mais on avait bien conscience que c'était une forme de distinction. C'était une façon de d'abandonner sa rusticité romaine pour acquérir quelque chose de supérieur. Donc, mais en acquérant cette culture grecque, il devenait du même coup pleinement romain.
C'est ce que dit Cicéron, je le cite. Nous nous sommes réunis pour construire des villes, nous avons fixé des lois, nous avons découvert des arts et presque toutes nos inventions. C'est le logos qui nous a permis de les conduire à bonne fin.
Voilà.
Et il ajoute que la nature humaine est un composé du corps et de l'âme. Il revient à deux disciplines de l'éduquer, la gymnastique pour le corps et la philosophie pour l'âme.
Voilà, et on a...
Mais cette âme n'est pas immortelle.
Alors,
ça dépend.
Ça dépend, justement. Cicéron semble, par moments, hésiter. Mais, finalement, son côté platonicien l'emporte et il opte pour une âme immortelle.
Alors, il y a un écrivain, enfin un auteur romain très célèbre, Terence, dont la phrase la plus connue est « Je suis homme et j'estime que rien de ce qui est humain ne m'est étranger », qui était presque la devise de la philosophie des Lumières.
Oui,
et vous expliquez que, en fait, c'est un contresens.
Oui, enfin, c'est un contresens, parce que si on regarde le contexte dans lequel cette phrase a été émise par un personnage, donc dans une pièce, Terence est un auteur comique, le contexte, c'est quoi? C'est deux voisins qui discutent. Qui sont dans la campagne romaine, deux voisins qui discutent.
Qui peuvent être copains.
Qui sont probablement un peu copains, qui discutent. Et l'un dit à l'autre, parce qu'il voit son voisin qui est en train de s'exprimer à bêcher ou à biner son jardin, et il lui dit « Mais pourquoi tu n'utilises pas un ou deux esclaves pour faire ça ?» Et il termine son intervention en disant, pour ce que j'en dis, tu fais ce que tu veux, mais rien de ce qui est... Voilà, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ça veut dire...
Je peux le faire moi-même.
Oui, mais ça veut dire que tu as bien tort de compliquer la vie, c'est tellement plus simple d'avoir un esclave. Mais c'est pas du tout une déclaration humaniste, une proposition sur l'être de l'humain, c'est pas ça du tout. Mais très vite, ça l'est devenu. C'est ça qui est intéressant, puisqu'elle a traversé tous les siècles jusqu'à aujourd'hui.
Il y a une autre phrase, François Hartog, qui a subi le même sort, c'est une phrase de Plot dans la Comédie des ânes,
oui.
L'homme est un loup pour l'homme.
Oui.
En fait, il dit, l'homme est un loup pour l'homme quand il ne sait pas à qui il a affaire.
Voilà.
Ce qui a introduit une nuance considérable.
Puisque là aussi, c'est dans un contexte d'une comédie d'un type qui essaye d'enrouler un autre. Bon, voilà.
Alors, les humains, pour les Romains, sont plus mortels que les autres mortels, car eux savent qu'ils vont mourir.
Oui, ah oui, les animaux ne savent pas. Et un esclave, il sait qu'il est mortel, bien entendu. Mais il n'a pas cette capacité, en principe, on ne lui reconnaît pas cette capacité de réfléchir, par exemple, comme Sénèque, sur la brièveté de la vie.
Est-ce que les Romains s'intéressent à l'immortalité? Est-ce qu'ils la désirent? Est-ce qu'ils la pensent? Est-ce qu'ils la figurent?
Pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, ça veut pas... Quand on dit les Romains...
Oui, c'est...
Voilà. Mais pas tant que ça. Il demeure quand même très forte cette idée que la mort, c'est la fin.
La fin de tout.
La fin de tout.
Arrive l'Homo Christianus.
Oui.
Comme vous l'appelez, François
Hartog. Venu, oui.
Avec l'idée de résurrection qui oblige à rebattre les cartes de la séparation entre les mortels et les immortels. L'histoire commence avec le Christ, qui est dans le monde, mais n'est pas du monde. Ça lui donne un petit côté quantique, d'ailleurs.
Oui, si on veut.
L'homme doit sa mortalité au péché, il meurt par ses fautes, et c'est de sa faute, en quelque sorte. Et est-ce que on peut comprendre cette transition entre les mondes grecs et romains, et puis le christianisme?
Oui, on peut la comprendre, même s'il y a un grand seuil. C'est pas la continuité. La philosophie platonicienne, elle continue à cheminer. Donc, en un sens, on a le partage avec le corps, l'âme, qu'on peut réactiver dans la perspective du christianisme. Mais le point un peu plus important, c'est, vous venez de l'indiquer, c'est cette affaire mortelle-immortelle. mortelle sempiternelle, là, comme je le disais, on a un Dieu qui est éternel, qui n'a ni début ni fin, et on a un personnage qui s'appelle Jésus, qui lui appartient au divin, donc appartient à l'éternité divine, mais qui, dans le même temps,
si on peut dire,
qui dans le même temps est pleinement humain.
Il est pleinement Dieu et pleinement homme.
Oui.
Il participe à la fois de l'éternité divine et de la mortalité humaine.
Puisqu'il est allé jusqu'à se mourir sur la croix. Bon.
Oui, mais il ressuscite, donc.
Ah bah oui, t'as d'accord.
Il meurt à temps partiel.
C'est là qu'on retrouve le côté divin du personnage. Mais il est ce médiateur qui permet d'introduire, alors si on parle de temps, dans le temps chronos du monde, de la vie humaine, ce temps vertical, kairos, qui est cette descente, comme ça, de l'éternité dans le temps humain. Bon, il est exactement au croisement des deux. Et son message, c'est de dire, si vous me suivez, si vous pensez bien, si vous croyez à cette résurrection, c'est bien le point essentiel pour saint Paul, si vous croyez à la résurrection, vous aurez part à l'éternité. C'est-à-dire que désormais, non seulement la mort sera vaincue, mais vous pourrez avoir un accès à l'éternité divine. Pas tout de suite, mais vous l'aurez. Bon, c'est ça la promesse. Qui, à la fois, les chrétiens eux-mêmes le disent, c'est cette folie.
Oui, mais comme on est né, on ne peut pas être immortel, même si on accède à l'immortalité.
Non, on reste, mais on connaîtra une résurrection.
Qui rebat les cartes. Donc on peut devenir éternel alors qu'on a commencé par naître.
Oui, c'est probablement, parce que... après le jugement, après le jugement, l'apocalypse, etc., commence un du tout autre, où le temps n'a plus cours. On entre dans l'éternité divine.
Mais c'est plutôt le changement qui n'a plus cours, mais le temps, il est toujours là, parce que pour construire de la durée, même infinie, il faut du temps. Non ? Ce qui ramène à Saint-Augustin.
Oui, voilà.
Saint-Augustin, vous en parlez longuement, François Hartog, dans votre livre. Il a été un penseur décisif pour
Absolument décisif.
Il explique qu'il y a quatre sortes de morts.
De
quatre sortes de morts. Quatre sortes de façons d'être traité quand on meurt.
Oui.
Voilà.
Oui.
On peut aller au paradis directement, en enfer directement. Il y a le purgatoire.
Voilà, pour Saint-Augustin, le purgatoire n'existe pas encore. C'est après. C'est-à-dire que au moment de Saint-Augustin, vous avez les vraiment mauvais qui vont directement en enfer, les vraiment bons qui vont directement au paradis, et puis tous ceux qui sont intermédiaires, la majorité bien entendu. Alors il y a ceux qui sont plutôt du côté mauvais, les autres qui sont plutôt du côté bon, et au fond
il y a des nuances.
Oui, beaucoup de nuances, et au fond on ne sait pas trop quoi en faire.
Bon. Donc.
Et là. C'est là qu'est arrivé, mais alors ça c'est au XIIe siècle, c'est là qu'est arrivée cette invention géniale du purgatoire. Puisqu'on a inventé un lieu qui est intermédiaire, au fond, hein, qui est entre les deux. Parce qu'il y avait quand même quelque chose qui heurtait les gens, c'est de dire, quand même, un Dieu qui est amour et qui vous damne pour toujours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faudrait peut-être que ça soit pour un temps.
Il faut aménager les peines.
Il faut aménager les peines, voilà. Il faut aménager les peines, et le purgatoire, c'est un lieu d'aménagement des peines.
Et d'instruction en même temps.
Oui.
On mène des enquêtes.
Oui. Aménager les peines, instruction, et possibilité d'intervention des vivants. Par l'intermédiaire des messes que vous dites, vous faites dire, par l'intermédiaire des indulgences. Donc c'est une opération très intéressante parce que la papauté s'arroge un droit de regard au moins, sur un espace qui n'est pas celui hors du monde, du paradis, mais qui n'est pas non plus celui pleinement du monde. Donc c'est une espèce de droit de regard sur quelque chose qui est au-delà. Et ça a bien sûr renforcé la papauté, et c'est aussi là-dessus que Luther va dire « ça va pas du tout ».
Qui a inventé la notion de dignité humaine, François Hartog? Parce que le christianisme dont vous parlez a tendance à rabaisser l'homme, il est mortel par sa faute, à cause de ses fautes. Il faut quand même lui accorder une dignité. Alors, comment est-ce qu'on peut la fonder?
Elle a existé d'emblée. C'est-à-dire que pendant toute la période du Moyen-Âge, disons, l'humain, l'homme, il est à la fois indigne, détestable et digne. Et pourquoi? Alors, il est indigne, bon, parce qu'il est pécheur, parce qu'il est tributaire de la faute d'Adam, et donc soumis à la mort. Mais par ailleurs, il a été créé à l'image de Dieu. Bon. Et cette ressemblance initiale, fondamentale,
lui donne de la dignité.
Lui donne de la dignité qu'il ne perd pas.
Donc on peut dire qu'il est digne par procuration.
Il est digne par procuration, mais cette dignité par procuration l'oblige.
Il faut qu'il en soit
digne.
Digne, justement. Ouais. Quand est-ce qu'on a inventé le mot humanisme? Et qu'est-ce qu'on a voulu désigner par ce terme?
Alors, c'est une longue histoire, assez compliquée, que je vais essayer de...
Parce que dans le sous-titre, il y a humain au pluriel, humanisme au pluriel,
oui.
Inhumain au pluriel.
Oui, oui, oui.
Donc on conçoit que ce soit compliqué.
Alors, pour essayer d'être un peu synthétique, humanisme est un terme récent. Humanisme, hein, le nom, n'est pas employé avant le 19e siècle. En revanche, le nom humaniste existe à partir du 15e siècle.
On le trouve chez Montaigne, une fois.
Oui, une fois, et dans un sens particulier. Mais on le trouve, alors le mot humaniste apparaît principalement en Italie au 14e. On commence à en parler, 14e, 15e, et là, ça désigne quelqu'un. Alors c'est pas quelqu'un qui est simplement qui est dans une culture classique, qui lit le Cicéron tous les matins. C'est un prof.
Un prof.
Un prof. C'est, on crée des enseignements.
L'humanité.
Oui.
Les humanités.
Non, pas encore les humanités, des études d'humanité. C'est en reprenant la formule de Cicéron, studia humanorum. Vous aviez dans les universités un spécialiste de droit canon, ça s'appelle un canoniste. Bon, vous aviez un légiste. Et puis vous avez un humaniste qui va enseigner ces choses-là. Et puis ça va un peu ça va évidemment, comme toujours, s'institutionnaliser. Il va y avoir des disciplines qui vont se constituer, voilà. Mais ça va pas au-delà. Et ce n'est que dans un second temps que l'humanisme va prendre un aspect plus large pour désigner quelqu'un qui a comme ça ce regard sur la meilleure façon de rendre les êtres plus humains. On revient, si vous voulez, à la définition romaine de l'homo humanus.
Puis arrive, vous en parlez longuement, Christophe Colomb, qui invente le mot indios, les Indiens, qu'il a rencontré en 1492. Et la question est de savoir quel est leur statut par rapport à l'humain.
Oui.
Et il y a un fameux procès qui est ordonné par Charles Quint. C'est pas un procès d'ailleurs, si, c'est une sorte de dispute.
Une dispute.
Dispute qui a lieu donc à Valladolid et qui va non pas trancher la question, mais quand même laisser penser que les Indiens sont des humains comme nous.
Oui, alors il y a l'opposition entre Las Casas et Sepúlveda, le jésuite.
Qui est le chapelain du roi.
Qui est chapelain du roi par la même occasion. Et qui n'a jamais mis les pieds en Amérique. Alors qu'au contraire, Las Casas et d'un homme de terrain, si je puis dire. Et là, le point important, alors Las Casas défend les Indiens, défend non seulement l'humanité des Indiens, mais défend l'idée qu'ils ne sont pas si sauvages que cela.
Ils ont des formes d'organisation très subtiles.
Et qu'ils ont, alors certes, ils ont des mœurs qui ne sont pas forcément ce qu'il faudrait qu'elles fussent, mais...
On peut les éduquer.
On peut les éduquer. Et même, dit-il, il va même jusqu'à dire, bon, oui, les sacrifices humains, c'est pas terrible, c'est même abominable, mais on peut quand même voir là-dedans une façon d'essayer d'honorer la divinité. Alors, il se trompe sur toute la ligne, mais il y a quelque chose, une aspiration.
Il projette.
Oui, une aspiration vers quelque chose de divin. Mais ce qui est, quand on évoque les indios, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent, les Indiens, et puis, de l'autre côté, en Italie, on disserte sur la dignité de l'homme, et on défend l'éminente dignité de l'homme, et puis on se pose la question de l'autre côté de l'Atlantique, sont-ils humains ? Bon, et c'est en même temps, ça qui est intéressant.
Alors, Sepúlveda veut écrire un livre, a écrit un livre intitulé « La guerre juste contre les Indiens », et il n'a pas l'autorisation de le faire publier. Donc ouais. Ça veut dire que c'est sans doute Las Casas qui a symboliquement
gagné.
Remporté le match.
Oui, mais ça n'empêche pas les conquistadors sur place de faire exactement ce qu'ils veulent.
Et de massacrer.
Massacrer, confisquer et réduire en esclavage.
François Hartog, vous parlez aussi, alors il y a votre livre, il est tellement érudit que je ne peux pas évoquer toutes les questions que vous traitez, mais il y a notamment la bagarre entre Montaigne et Pascal sur ce point-là. En quoi consiste-t-elle ? Alors, qu'est-ce qui les oppose ?
Elle est très importante, évidemment, parce qu'à la fois Pascal, donc au XVIIe siècle, Montaigne au XVIe, Pascal a beaucoup lu Montaigne, et il apprécie chez Montaigne toutes les critiques qui sont faites par Montaigne sur la maigre qualité des humains. Alors ça, il trouve ça très bien. Misère de l'homme. Bon. Mais Montaigne, justement, oublie le côté dignité. Laisse de côté le côté dignité. Et de ce fait, pour Pascal, Montaigne met en péril l'homo Christianus.
Il y a une phrase des pensées de Pascal terrible. Parlant de Montaigne, il écrit « Il ne pense qu'à mourir lâchement et mollement par tout son livre. »
Voilà.
Son livre, c'est les essais.
Voilà. Il ne pense qu'à mourir lâchement, mollement. Bon, puisque pour Pascal, au contraire, la mort est ce moment essentiel où le pari se joue. Où on arrive à la résolution du pari. Et alors, Pascal entreprend dans un moment où l'homo Christianus commence à être mis en question. Alors, c'est toute la thématique des libertins. Commence à être mis en question, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas ou qui ne croient plus ou qui croient simplement une espèce de Dieu de premier principe, enfin voilà. Et Pascal défend l'homo Christianus. C'est une défense très 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 habile, très subtile, très passionnée de l'homo Christianus. Il veut revenir à l'homo Christianus.
On doit parler de Rousseau aussi, François Hartog. Est-ce qu'on peut dire que Rousseau défend l'idée d'un chemin inverse de celui envisagé par les Romains, avec l'idée que les choses avaient bien commencé, puis ça s'est gâté à cause de la civilisation.
Oui.
Alors que pour les Romains, au contraire, on était des bêtes sauvages au départ, et la culture nous a rendus humains.
Oui, oui, en ce sens, oui. Mais Pascal, Rousseau est à contre-courant, en un sens. Il voit son homme de la nature comme un être
bien heureux.
Oui, mais qui aurait dû rester comme ça. Tout en sachant, tout en disant bien que il a besoin de cet homme de la nature, tout en se disant que peut-être il n'a jamais existé. Mais qu'il en a besoin intellectuellement justement pour comprendre la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette situation où s'est développée une inégalité insupportable dans les sociétés.
Oui, c'est son livre Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes.
Voilà, c'est ce deuxième discours. Et Rousseau, inverse le schéma historique qui se déploie, c'est-à-dire la perfectibilité qui va être le moteur, perfection, on passe de la perfectibilité de la perfection à la perfectibilité de la perfectibilité au progrès, en thématisant. Bon. Pour Rousseau, la perfectibilité, qui est une propriété humaine, est une catastrophe. Puisque c'est ce qui a poussé les humains toujours en avant et qui les a fait sortir de cet état où ils étaient assez paisibles, bon, pas très, ils ne faisaient pas grand-chose, mais enfin, ils étaient contents, pour les mener vers cette situation d'aujourd'hui qui, à son avis, est insupportable.
Mais est-ce que ça n'est pas une forme de misanthropie ?
Oui, mais on peut dire c'est comme pour le misanthrope, c'est par amour des hommes.
Viennent les Lumières, la philosophie des Lumières, évidemment. Qu'est-ce qu'elle change dans ce débat sur que veut dire être humain, François Hartog ?
On peut retrouver Terence, justement.
Hein. Mal compris.
Oui, mais après, chacun fait l'usage qu'il en veut. Hein. Je suis homme et rien humain de ce que m'est étranger. Donc, vous l'avez dit d'un mot, c'est une des devises des Lumières. L'autre étant ose savoir, ça va tirer d'Horace, que Kant utilise pour...
Et le courage de te servir de ton entendement.
Voilà, ose savoir, ça fait ose savoir. Là, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, se déploie dans deux directions. Une direction spatiale, puisqu'on étend l'humanité. On commence à parler d'humanité au sens de l'ensemble des humains et on cherche
un sens universaliste.
Oui, un sens universaliste, mais attention parce que dès qu'on étend, va se poser le problème des limites. Jusqu'où on va ? Est-ce qu'il y en a qui sont dedans, à les limites, à l'extérieur ?
Est-ce qu'il y en a qui sont plus humains que d'autres ?
Voilà. Bon, il y a tout de suite pose des problèmes de. Arrête, on arrive dans les problèmes de hiérarchie et c'est une des matrices du racisme. Bon. Et deuxième dimension, une dimension temporelle, puisque on va élargir beaucoup, on va sortir du cadre biblique, des 6000 ans qui sont ceux de la Bible, ça c'est Buffon, si vous voulez, Buffon avec ses époques de la nature. On a, d'une part, la Terre est beaucoup plus vieille, beaucoup plus ancienne que ne le dit la Bible, il y a tous ces calculs de Buffon. Et puis, donc les humains sont beaucoup plus anciens que Adam qui est sorti un matin. Donc il faut reprendre toute la Genèse, la recomprendre autrement. Donc c'est extension spatiale et extension temporelle. C'est la... Et puis, mise en question évidemment de l'homo Christianus. Alors là, vous avez...
Nietzsche.
Oui, on a après Nietzsche, mais le premier à ce Voltaire qui, s'en prend à l'Église, pas tellement à l'homo Christianus du point de vue théologique, même s'il s'en moque, mais c'est surtout l'Église qui
s'en prend à Blaise Pascal sur le divertissement.
Oui, voilà. Mais hein, vous avez Montaigne, Pascal, Voltaire, qui forment on peut suivre. Pour Pascal, Montaigne, c'est son meilleur ennemi. Et pour Voltaire, Pascal est son meilleur ennemi.
La figure de l'inhumain, elle apparaît quand ? Quand est-ce que le mot est inventé ? Qu'est-ce qu'il désigne au départ ?
La figure de l'inhumain, évidemment qu'il existe depuis toujours. Mais il y a des moments plus forts, ou plus intenses, ou plus terribles. Et il est assez récent. On peut employer parfois inhumanitas à Rome, ça existe. Mais
c'est quoi, c'est le barbare, c'est l'esclave?
Oui, c'est le barbare, et aussi il y a les comportements inhumains, c'est-à-dire particulièrement violents, de mutilation, par exemple, des corps. Enfin, voilà, ça relève de l'inhumanitas. Mais le moment Enfin, il y a des temps forts, si je puis dire ainsi, parce qu'il y en a beaucoup. Nous avons les guerres de religion. C'est un moment de particulièrement...
Oui, vous rappelez une description de la Saint-Barthélemy en 1572.
Oui. C'est pas la joie.
C'est pas la joie.
Et avec et puis les enfants qui sont en... Enfin, on pense au génocide du Rwanda. Enfin, voilà, ce type de violence qui naissent comme ça en quelques instants. Et puis... Alors après, c'est à partir du XXe siècle, est quand même très bien placé dans la compétition, avec, à partir de la guerre de 14, la brutalisation des sociétés et le plein épanouissement de cette brutalisation avec la Seconde Guerre mondiale, les camps nazis, les camps d'extermination et le goulag soviétique.
François Hartog, vous citez un ancien combattant de la guerre de 14 à qui on remet la Légion d'honneur en 1936, et qui, lorsque la cérémonie a lieu, prononce ces mots « La guerre a fait de nous non seulement des cadavres, des impotents, des aveugles, elle a aussi, au milieu de belles actions, de sacrifices et d'abnégation, réveillé en nous et parfois porté au paroxysme d'antiques instincts de cruauté et de barbarie. Il m'est arrivé à moi qui n'ai jamais appliqué un coup de poing à quiconque, à moi qui ai horreur du désordre et de la brutalité, de prendre plaisir à tuer. » Voilà. Donc ça veut dire que le vernis de la civilisation est quand même très peu épais, comme l'a
dit Freud.
Comme l'a dit Freud.
Dès 1915. Bon, nous sommes des assassins, nous sommes tous des assassins.
Et donc que veut dire être humain en des temps qualifiés d'inhumains? Vous avez parlé des camps, la Shoah, le Goulag, les grands massacres.
Alors, on aurait pu prendre des quantités de témoignages, mais j'ai pris celui de Vassili Grossman, celui de Lévy.
Simon Lévy.
Voilà. Et puis celui de Chalamov, Varlam Chalamov. Et bon, au départ, parce qu'ils sont admirables et
Chalamov, c'est celui qui a écrit Les Souvenirs de la Colima.
Voilà, Les Souvenirs de la Colima.
Dans les années 70.
Voilà. Hein, qui a passé 15 ans ou plus au goulag. Et la question que posent ces trois auteurs et ces trois déportés et ces trois survivants, enfin, pardon, Grossman n'a pas été déporté, mais est-il possible de rester humain dans un monde inhumain? Et c'est ce qu'ils essayent de... D'une part, ils disent « on peut pas », et deuxièmement, ils disent « on peut y arriver ». On peut y arriver, et rester humain, alors ça va dans des choses minuscules, mais c'est qui sont essentielles, et surtout, cette revendication de l'humanité face à ceux, les bourreaux, qui, de toutes les manières possibles, jusqu'à la dernière, en vous exterminant, la nie. Et à partir du moment où vous, même sans grande démonstration, vous présentez, enfin, vous demeurez installé dans cette humanité que vous revendiquez, c'est le bourreau qui se trouve déshumanisé et qui passe du côté de l'inhumain. Alors bien sûr, lui ne reconnaîtra jamais qu'il est, ne se revendiquera jamais, enfin très rarement, comme inhumain. Mais ce déplacement, ce renversement, celui qui est déshumanisé en récusant, en tenant ferme, encore mais simplement en tenant. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire des grandes proclamations. En tenant.
Se tenant droit.
Voilà. Renvoie au bourreau son inhumanité qu'il devra porter jusqu'à la fin de ses jours.
Mais Chalamov est plutôt pessimiste, parce qu'il dit, par exemple, à ce propos, hein, dans un petit texte qu'il intitule « L'extrême fragilité de la culture humaine et de la civilisation », en 3 semaines de travaux pénibles, de froid, de faim et de coups, un homme devenait une bête féroce. Mais il y a des exceptions.
Voilà, ben ils en sont. Il en est une.
La guerre est passée, je parle de la seconde, 1949, à Genève, rencontre pour un nouvel humanisme. Et là, on donne l'impression d'avoir tout compris et que les choses vont désormais aller mieux. Oui. On va trouver des parades contre les déchaînements de violence massive.
Ce qui est très frappant, c'est que tout de suite après la guerre, dès 45, on a l'impression que tout le monde cherche un nouvel humanisme, se revendique de l'humanisme, et ça va encore une fois, tout le monde. À la fois politiquement, c'est du côté des chrétiens, du côté des communistes, du côté des certains philosophes, tout le monde est là à chercher un nouvel humanisme. Ce colloque que vous évoquez en 1949 à Genève essaye de proposer.
Il participait d'ailleurs le prix Nobel de physique Louis de Broglie.
Oui.
Et c'est là qu'est née l'idée d'une collaboration internationale en physique des particules. L'idée du CERN est née là.
Voilà. Bon, alors c'est l'idée justement de la
on rapproche ceux qui se sont fait la guerre dans des projets scientifiques communs.
L'idée de collaboration, collaboration là au sens de collaboration scientifique, et c'est ce moment aussi où l'UNESCO qui vient d'être créé cherche une doctrine. Bon, et ce colloque est une façon d'essayer de donner une doctrine à l'UNESCO, justement, un nouvel humanisme. Mais un nouvel humanisme, alors encore une fois, là cette fois élargi à toutes les civilisations, on commence à parler, on parle en termes de civilisation au pluriel, et non plus au singulier, donc toutes les civilisations sont également dignes d'être représentées. Il n'y a pas de hiérarchie des civilisations. Donc c'est ça qu'on essaye de construire ou d'élaborer. Et puis évidemment la grande institution qui va de pair avec l'UNESCO, c'est l'ONU. Bon, qui va si mal aujourd'hui et qui débouche sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout ça, c'est un ensemble de ces années 45-50.
Avec une promotion de l'idée d'universel, mais aussi un débat qui va être percuté par la question du colonialisme.
Bien sûr, puisque cet universel qui est revendiqué, vous avez un certain nombre de gens qui viennent dire « Attention, là, vous êtes parfaitement hypocrite avec votre universel. C'est un universel complètement rabougri. C'est un universel mensonger. »
Que vous avez imposé.
Puisque dans les colonies, votre humanisme, qu'est-ce qu'il est ? Il est en fait un racisme. Il est en fait une violence exercée. Donc, cet humanisme-là, il ne vaut rien. Enfin, il faut s'en débarrasser. Mais ce qui... Alors, c'est toute la thématique des luttes anticoloniales, et puis de la décolonisation. Mais le point important, me semble-t-il, par rapport au débat d'aujourd'hui, c'est que aussi bien Aimé Césaire, qui est en France en tout cas, un des principaux porte-parole de cette critique de l'humanisme qu'on qualifie aussi de bourgeois, et Frantz Fanon, ne sont pas pour bazarder l'humanisme. Ils sont pour qu'on arrive justement à un véritable humanisme, qui serait véritablement universel. C'est ça qu'ils veulent essayer d'élaborer, ce vers quoi il faudrait arriver. Alors Fanon pense que ça passe par le tiers-monde, puisque c'est le moment où on commence à parler du tiers-monde, la conférence de Bandung en 1955, etc. Bon, donc il y a cette aspiration. Donc c'est pas du tout un refus de l'humanisme, c'est la... En tant que tel, c'est au contraire essayer de fonder un véritable humanisme. C'est aussi ce que essaiera de dire Merleau-Ponty à sa façon.
Mais est-ce que vous, l'historien que vous êtes, François Hartog, vous êtes capable de faire un bilan de cette très longue histoire et d'essayer de définir ce qu'on appellerait aujourd'hui être humain, d'une façon qui soit, pour le coup, relativement, si j'ose dire, universelle?
C'est très difficile. Parce que là...
On n'a pas parlé des femmes, mais comment la question des femmes vient percuter, elle aussi, la question de être humain.
Bien sûr, puisque toutes ces définitions de l'humanisme laissaient parler de l'homme comme être humain. C'était pas simplement, on voulait pas dire simplement les mâles, mais cet homme était quand même principalement masculin et les femmes venaient après. Donc il y a, depuis les années 1970, toute une série de mises en question de la spécificité de l'humain. Bon. Que ça vienne des sciences, comme des sciences cognitives, que ça vienne de la paléontologie, que ça vienne de la philosophie. Bon, on se souvient de Foucault en 1966 avec la mort de l'homme, enfin qui n'est que la suite de la mort de Nietzschéenne. Et puis, vous avez aussi les mouvements féministes. Et puis j'en oublie, enfin il y a toute une série de mises en question, non pas coordonnées, mais convergentes. Ou les études animales aussi, bien sûr, qui disent qu'il faut mettre fin à l'exceptionnalisme humain.
Toutes les frontières sont poreuses.
Voilà. Et il faut se débarrasser, du même coup, des anciens partages. Humains, animaux, dieux, masculins, féminins... enfin, tous ceux qu'on a déployés au fil des siècles, et pour privilégier les entrecroisements, les relations, les mixités, enfin, tous ces mouvements-là. Et à la fin des fins, on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'on peut saisir comme...
Spécifiquement humain.
Y a-t-il spécifiquement humain ? Et là, à ce point, alors ça c'est encore de l'histoire, à ce point, vous avez eu dans les mêmes années, autour des années 70, l'apparition des humanitaires. Une fondation...
Médecins
du monde, Médecins sans frontières, etc. Bon. Qui, eux, alors s'appellent humanitaires, je pense, parce qu'ils ne pouvaient pas s'appeler humanistes, parce qu'humanisme, précisément, était inutilisable compte tenu du contexte, en particulier colonial, décolonial et social, enfin, humanisme égale bourgeois, donc humanitaire. Mais au nom de quoi les humanitaires se sentent-ils requis d'intervenir ? Au nom de la dignité de l'homme, de l'humain, où qu'il soit, quel qu'il soit, dans quelque situation qu'il soit. Bon. Donc on a, d'un côté, il n'y a pas de spécificité, puis de l'autre côté, vous avez ce mouvement qui se développe, qui n'est pas un développement, c'est pas une philosophie qui se construit avec des propositions, des théorèmes et autres. Il faut y aller, dans l'urgence, et on y va au nom de la dignité.
La dernière phrase de votre livre, François Hartog, c'est une sorte de paraphrase de Terence. Mmh. Je suis homme et rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger.
Voilà. Alors, est-ce que c'est tenable?
Est-ce que c'est la nouvelle définition de l'humanisme que vous proposeriez?
Oui.
Ben, ça sera le mot de la fin. Merci François Hartog. Je recommande très vivement la lecture de votre livre tout à fait érudit qui s'intitule « Départager l'humanité » dont l'anagramme est « Le paradigme heurtant » qui renvoie assez précisément à ce que vous nous avez raconté. Livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la réalisation et la mise en onde Julien Moulet.